Alors, comme on est dans la logique, toujours questions et remarques, je me lance. J'ai plein de choses à te dire. Merci d'abord pour cette présentation très complète et mise dans le contexte de ce que tu as pu observer, parce que c'est vrai que moi je suis de l'autre côté, je suis du côté de l'utilisateur, et c'est intéressant de voir ce que quelqu'un d'extérieur peut ressentir de l'usage de ces objets. Alors il y a deux ou trois choses qui m'ont bien intéressée. Il y a de nouveaux outils périphériques à ces objets qui apparaissent. Il y a le visualiseur de documents, par exemple, qui me semble avoir des potentiels énormes, parce que le livre rentre sur l'écran sans oui. tout cet appareillage oui. Oui. que la pauvre collègue a dû faire, de scanner oui. Page, oui. page à page, etc. À il s'agit d'une petite webcam oui. qui est sur un pied et qu'on pose au-dessus de ce qu'on veut filmer. Alors nos collègues de physique ont tout à fait l'habitude de ça pour filmer leurs expériences, mais nous par exemple on a envie d'aller chercher le texte ressource, on a le Borges à la main, hop, on l'ouvre, on le vidéoprojette et les élèves ils ont leur Borges au tableau. Donc c'est extrêmement, ça c'est un outil pour nous en lettres, je pense qu'il va être très intéressant à exploiter, parce que alors c'est une webcam, c'est juste que la webcam est fixée sur un pied qui te permet d'être au-dessus de ce que tu photographies. Voilà, c'est tout. C'est une webcam. En termes de technologie, oui. aucune différence. Donc ça, c'est intéressant. Je dirais aussi qu'il y a quelque chose qui est inquiétant dans cet outil-là, c'est le développement des boîtiers de vote. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, en fait, chaque élève reçoit un boîtier. Alors, selon les marques, il y a plus ou moins de boutons, plus ou moins de choix. Et en gros, l'idée, c'est qu'à tout moment, un enseignant peut écrire au tableau un QCM pour vérifier où en est la classe de la compréhension. Alors, il paraît que ça rend très interactif les cours en amphi. Je veux bien croire les constructeurs. Moi, ça m'inquiète beaucoup sur la manière dont on va rentrer dans des évaluations oui. comme ça permanentes. Mais en même temps, ça peut, parce qu'il y a un silence de la salle face à ces outils-là. On est fasciné par l'écran et du coup, c'est pour rompre cette dynamique-là. Allez, hop, un petit QCM, c'est parti. Oui. Et donc, alors c'est soit à quatre pôles et on fait réponse A, B, C, D avec tout ce qu'il peut y avoir d'erreur, de j'ai mal appuyé, c'est pas ça que je voulais dire, etc. Mais bon, pourquoi pas. Et il y en a où on peut quasiment saisir une réponse courte. Il y a un clavier vraiment avec l'alphabet et on tape des éléments. Et ça, pour moi, c'est des questions en termes d'organisation dynamique entre des temps d'évaluation formatifs. Est-ce que ça peut être une évaluation sommative ? Il y a cette tentation-là chez certains collègues dans d'autres disciplines, où je pense que ça ne le sera pas, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Et du coup, tous ces petits outils-là périphériques, ça vaudrait le coup aussi de... c'est pour ça que je me permets de les mentionner. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui m'a paru très intéressant dans ta proposition. C'est que pour moi, cet outil, il est intéressant si le collègue, il accepte de se mettre en danger et d'exhiber les mécanismes d'improvisation de son cours ou les mécanismes de construction de son cours, ce qui, je pense, est encore plus impliquant. Oui. C'est-à-dire que de dire à l'élève, quand je fabrique mon cours, je vais sur Internet, je vais moi aussi chercher telle et telle référence oui. à tel et tel endroit. Je vous montre où j'ai pris mon cours, parce que l'intérêt de mon cours, c'est pas le contenu que je vous transmets, mais c'est de vous montrer comment on s'approprie le texte et comment. Ça, ce serait vraiment des usages oui. très innovants. Et je pense vraiment dans l'intérêt de l'outil là pour le coup, parce qu'on est en collectif, ils peuvent voir notre démarche individuelle et s'en imprégner, s'en inspirer, la contester, dire bah vous faites comme ça madame et moi j'ai une meilleure solution, bah viens au tableau montrer comment tu fais mieux que moi. Et ça c'est très engageant. Et du coup c'est le moins que je vois, parce que j'en vois beaucoup aussi dans le cadre de formation. Ce que je vois tout le temps, c'est mon objet à moi comme mon ordinateur personnel et sur lequel je passe des diaporamas, puisque ma foi, c'est ce qu'il y a de plus cadré, de plus préparé à l'avance. Et je ne sors surtout pas de cette scénarisation, puisqu'on a parlé de scénarisation ce matin. Alors que ce qui me paraît très intéressant, c'est justement un outil qui permet de montrer au collectif qu'est-ce qu'une démarche individuelle. Penser, rationaliser. Quand tu disais on tombe sur oui. des images un peu bizarroïdes, oui. Moi je pense que là c'est parce que les collègues elles n'utilisent pas vraiment l'outil au quotidien. Je te dis pourquoi, parce que quelqu'un qui prépare un cours sur un TNI, il ne devrait pas préparer le scannage des pages et des choses comme ça. Il devrait préparer des liens vers des ressources qu'il va exploiter en classe. Et en fait, la seule chose qu'il ne devrait pas préparer, c'est une espèce d'agrégateur de liens, un NetVibe, un autre chose, où il y a toutes les choses qu'il va utiliser. Et il clique et il montre, vous voyez, ça c'est intéressant pour aller chercher les représentations d'animaux. Ça non. L'élève dit, bah, moi j'en ai un de mieux. Très bien, ah, bah, super, on va l'intégrer dans celui de la classe. Et c'est des usages beaucoup plus dynamiques de construction du savoir parce qu'on ouvre sa propre recherche, le résultat de ça. Mais c'est une prise de risque. Voilà, parce qu'à tout moment, l'élève peut dire, ah oui, mais j'en ai... Madame, vous êtes à côté, moi je fais ça mieux, ou il y a plein de choses. Mais du coup, c'était très intéressant, parce qu'effectivement, dans ta posture d'observateur, tu vois aussi que c'est peut-être ça qui... C'est la préparation du cours, quoi. Est-ce que si on se fait quelque chose d'aussi scénarisé qu'un manuel, c'est épuisant?
Et c'est peut-être pas intéressant. Enfin, excuse-moi, voilà, je trouvais très intéressant les questions là, que tu me poses. Alors, effectivement, enfin, dans cette... position qui est très délicate aussi, hein. Tu dis, tu es là dans la classe, tu observes, et parfois ça peut être gênant pour le collègue, mais on est collègue, et je dirais c'est de l'auto-formation réciproque, etc., et c'est un enrichissement pour toutes les deux, voilà, et ça c'est vraiment très bien, et je ne vais pas chercher, par exemple, quelqu'un qui me dit « voilà, je suis une experte en tableau numérique interactif, je fais ça, c'est tout bien fait, etc. » Mais c'est un objet de pensée, c'est-à-dire comment je construis du savoir pendant toute ma vie. Enfin, je veux dire, on est enseignant, ça veut dire qu'on a toujours envie d'apprendre. Donc, comment je construis mon savoir en utilisant cet outil-là? Comment je bafouille? Comment je tâtonne? Comment je me trompe? Et cette erreur-là, je l'intègre à mon cheminement. Et comment j'avance sur mes anciennes pratiques, etc. Tout ça me semble très intéressant. En même temps, je suis enregistrée. Néanmoins, je dois dire qu'il y a tout de même une pression extrêmement forte sur l'évaluation continuelle de toutes les personnes, dont les enseignants. Est-ce que vous avez bien fait votre séquence d'enseignement? Où en êtes-vous par rapport à votre programmation, etc. Et du coup, on intègre dans notre métier de prof, j'ai fait une belle fiche de prep avec prévision, objectif, programmation, minutage, etc., etc. Et du coup, j'ai ma fiche mémorisée. Et j'ai le concret de la classe. Et il faut quelque part, si je suis une bonne prof, c'est la fiche qui est stabilisée. Et mon cours, il doit coller à ma fiche stabilisée. Alors que je dirais, la vie, ça serait plutôt de gribouiller ma fiche de prep et d'aller du côté des erreurs. Et c'est en ce sens où, effectivement, l'idée, c'est presque d'improviser. Il me semble qu'on a abordé ce problème-là à un moment, je ne sais plus, il me semble que c'est M. Jeanneret, mais je ne suis pas sûre, qui disait, les philosophes n'écrivaient pas leurs cours. Ce sont les disciples qui ont écrit. Je ne sais plus qui a dit ça parmi les intervenants. Mais quelque part, oui, un prof qui improvise. Mais voilà, ça fait partie de la vie de l'enseignant. Voilà. Et quand il improvise, ah ben oui, tiens, ça, j'avais pas prévu. On va chercher ce mot, on va chercher telle image. Voilà, on fait telle chose là. Et cela, je trouve que c'est très intéressant. Et en même temps, oui, c'est une découverte progressive. Et quand tu disais aussi, il y a des nouveaux outils qui arrivent. Il y a des milliers de choses. C'est pour ça que je regrette fortement qu'ils ne soient pas là. Mais ces milliers de choses, moi, qu'est-ce qui m'intéresse finalement? Voilà, en tant qu'enseignant. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est-à-dire que on ne va pas, je dirais, adapter notre démarche pédagogique aux outils, mais on va prendre les outils dont on a besoin dans notre réflexion pédagogique. Voilà. Et ma réflexion pédagogique, ça serait de dire, je crois que lire, c'est relire, c'est écrire, etc. Donc je veux que les élèves écrivent. Donc comment je vais les amener? Je veux que les élèves écrivent à plusieurs. Comment je vais les amener à ça? Voilà. Et si j'ai des outils qui peuvent me permettre de faire ça, je vais prendre les outils et je prendrai la forme de le savoir. Voilà. Alors, ceci dit, ce qui est intéressant dans ce tableau numérique interactif, ça nous permet de réfléchir sur le tableau noir. Ce que je veux dire, c'est que les nouveaux supports nous permettent de réfléchir sur les anciens supports. Il n'y a jamais eu autant de colloques sur le livre qu'aujourd'hui. Hein. Maintenant où on a des iPads, là, on va vite dire, mais et le livre, mais qu'est-ce que c'est que cet objet livre, etc. On a toute une réflexion là-dessus, et peut-être qu'il faudrait réfléchir sur les tableaux qui sont dans les classes. Et c'est vrai que quand on arrive dans une salle de classe, on regarde les murs. Tout à l'heure, quelqu'un pendant le repas disait, on n'a pas beaucoup travaillé sur l'espace de la classe. Voilà, hein, vous disiez ça, sur l'espace de la classe. Mais si on regarde les murs, essayez de voir comment les murs sont occultés par des tableaux d'écrits, donc les écrits qui sont permanents, figés, les règles de grammaire, la frise historique, enfin, y a toute une codification là-dessus. Et puis les choses qui sont sur le tableau sont des choses éphémères, en général, au maximum la semaine. Enfin, ça ne reste pas, c'est des choses qui bougent comme ça. Et essayez de voir comment on occupe l'espace sur le tableau, hein, ce qu'on écrit, dans quel ordre, enfin, c'est très intéressant de voir ça. Alors effectivement, on a les représentations visuelles des tableaux à l'ancienne, où on écrivait dictée, leçon de morale, la carte de géographie qui était sur le revers, etc. Enfin, mais je suis déjà peut-être d'une autre génération où on faisait ça. Donc voilà, il me semble que c'est intéressant de voir cet élément. Maintenant, le risque de tableau interactif, hein, ça peut être aussi extrêmement magistral, frontal, voilà. Ça peut être la même chose. Hein.
Un élément qui me semble intéressant dans le tableau interactif, dont tu n'as pas parlé, c'est le fait qu'on peut garder une trace très facilement. Oui. C'est-à-dire qu'on peut imprimer, puisqu'il y a cette fonction qui permet que l'écriture manuelle devienne de l'imprimé, et puis on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, et ça sort en photocopie. Enfin, donc,
oui.
Ça... Ah oui.
Oui. Oui, alors ça je l'ai vu en classe, effectivement. Et donc ça, c'est cette fonction de mémoire, enfin de mémorisation, c'est toujours là. Voilà ce qu'on a vu la semaine dernière, voilà où on en était, voilà les modifications qu'on avait apportées, voilà les savoirs stabilisés. Bon, c'était travail sur notion de reprise, le nom du personnage principal est repris par des pronoms, etc. Voilà ce qu'on a appris, et donc on continue. Et du coup, on va avoir une accumulation de savoir, voilà, qui est toujours là, toujours disponible, etc. Oui,
parce que souvent on perd des choses très intéressantes qui ont été faites sur le tableau, ou bien alors on perd du temps à le recopier, enfin, voilà. Il faut gérer tout ça. Voilà. Là, ça me semble quand même quelque chose de très utile.
Oui. Alors, j'ai effectivement gommé un petit peu rapidement ça, parce que je crois qu'on a beaucoup parlé sur la mémoire, l'écriture qui est liée à la mémoire, et effectivement cette fonction-là qui est le numérique finalement permet une mémorisation plus grande, enfin, c'est là, c'est toujours là tant qu'on peut lire le support, quoi, tant qu'on est branché. Voilà. Quand même voilà, je disais, il faut une énergie, enfin, ça a un coût, et ça il y a un programme enfin, j'en dirais, vous voyez, comparatif des tableaux blancs interactifs pour essayer, en fonction de voir les différentes marques, essayer de voir, voilà, différents tableaux, différentes marques. Et vous trouvez sur Internet, hein, vous mettez simplement TNI, prix comparatif, un comparatif de prix. C'est comme on fait pour acheter une télé, une machine à laver, c'est la même chose. Et ils nous font descriptif, qualité, quel type de clé, comment ça fonctionne, etc. Et en gros, les prix, en fonction de ce qu'on a, là, j'en dirais, on peut pas avoir du matériel à moins de 1 500 €, quoi. Voilà. Donc c'est du matériel fragile, d'où certaines réactions quand même que dont je me fais l'écho. C'est-à-dire, comme c'est un objet extrêmement fragile, on ne peut pas envoyer les élèves au tableau. Enfin, c'est un objet de surveillance, c'est un objet de contrôle. Pour les collègues, c'est la même chose. Est-ce que tu as eu une formation, enfin, dans quelles conditions, etc. Donc parfois, ça devient un espace, je dirais, une sorte de coffre-fort, quoi. Voilà. La fragilité. Et ça renvoie aussi à cette idée d'un espace contrôlé, enfin, encore un, voilà.
Sinon, ça serait en italique. Non, ça me renvoie à une discussion qu'on avait ce midi avec notre amie chilienne et les professeurs brésiliens qui sont ici, sur la question du coût. 1 500 € équiper une classe, c'est vrai que c'est énorme. Et je pensais à ce moment-là que quand j'ai dit à mon fils qui rentrait d'Inde, cet été, que François Hollande, président du Conseil général de la Corrèze, allait équiper toutes ses classes, tous les élèves du département avec des iPads. Il était furieux parce que il me disait, enfin, en Inde, alors je sais pas, c'est pas dans toute l'Inde, mais dans l'un des États, sans doute l'un des États les plus avancés, il est question de faire exactement la même chose, mais avec des matériaux made in India et pas du tout sous licence Macintosh, qui au lieu de coûter, je ne sais plus combien coûte un iPad, vont coûter à peine 80
euros. 800 euros, un iPad.
Un iPad 800 euros, voilà. Et donc ça va coûter 10 ou 20 fois moins parce que ça sera une espèce de produit détourné. Et je trouve qu'on est, on est quand même confronté, enfin, c'est vrai que ces dispositifs nous mettent, enfin, je pense, c'est aussi pour faire boucler avec ce que disait Emmanuel Souchier il y a deux jours en ouvrant la deuxième partie de ce stage, on est complètement dépendant de puissances économiques qui font absolument... C'est quand même incroyable, penser qu'on va pouvoir donner 800 euros par tête de pipe de petits corésiens à... Bon, ils vont sûrement avoir des prix, mais quand même, je trouve que c'est assez renversant, alors que les Indiens se débrouillent pour fabriquer eux-mêmes leurs appareils et pour les faire payer 10 fois moins. Et sans doute que voilà. C'est difficile d'équiper toutes les classes du Brésil ou du Chili avec du matériel. Il y a quand même certainement des solutions pour avoir... Ça ne coûte rien, l'informatique, finalement. Quand on réfléchit deux minutes, c'est quand même un matériau relativement simple. Il suffit d'une volonté industrielle, en fait, de faire autre chose que Hitachi ou Apple. Et c'est une volonté politique, quoi. Voilà. C'est pas...
Alors, effectivement, il y avait ce problème-là, enfin, qui était un petit peu étonnant, mais... Donc, le livre est sur écran, c'est très beau, les illustrations, etc. Mais les élèves n'ont pas l'objet en main. Alors, je ne veux pas être nostalgique, hein, le monde à portée de main, c'est fabuleux, le rêve de Borges, je me sens bien là-dedans, dans ce rêve-là. Mais en même temps, je suis bien dans ce rêve parce que j'ai tous les livres à portée de main aussi. Et donc, je suis comme... vous, c'est-à-dire, j'aimerais bien que les élèves aient un livre dans la main, voilà. Et le problème, c'est si on équipe la classe, on ne va pas équiper la bibliothèque, voilà. Et là aussi, je crois qu'on a dit, quand on prend quelque chose, quand on gagne quelque chose, on perd autre chose. Donc quel sacrifice est-ce qu'on est prêt à faire ?
Je suis d'accord. C'est-à-dire que nous, on est dans un monde de luxe. On a accès à tout. Oui. La matérialité du livre, c'est le luxe ultime. Je veux dire, la bibliophilie, on est bien d'accord. Oui. Ce n'est pas de la... C'est au-delà de la littérature. C'est un fétichisme de l'objet.
Oui.
Maintenant, ce qui est intéressant dans toutes ces démarches qui se développent dans le tiers-monde, c'est de passer outre le temps où la technologie est payante, c'est-à-dire passer outre les brevets, passer outre la propriété industrielle, tout ce qui fait que nous, aujourd'hui, on peut pas partager les manuels. Tout ce qui fait que nous, aujourd'hui, par exemple, on peut trouver des centaines de copies de films partout, on n'a pas le droit de les passer à nos élèves.
Oui.
Hein, on doit aller acheter le DVD qui coûte 140 euros, oui. Et d'un cinéma ou je ne sais quelle collection, parce qu'on n'est on est pas censé... ça bénéficie justement, je trouve, aux pays qui sont plus en voie de développement, mais aux nouvelles puissances émergentes, parce que c'est ça que c'est. Hein, c'est plus, on n'est plus dans ce modèle-là. Et c'est parce qu'ils vont s'affranchir d'un certain nombre de contraintes qu'on s'impose en tant que pays développé. C'est tout. Mais c'est après, quand Marie disait il y a quelques jours qu'on peut utiliser la Wiimote en classe, c'est strictement interdit. On attaque le brevet de la Wii, on détourne l'objet technique. Je veux dire, l'inspecteur ne saura même pas qu'on détourne l'objet, mais si quelqu'un voit et qu'on voit ça, c'est absolument illégal. Donc il y a aussi tout un corps de contraintes qui font que c'est plus confortable pour un certain nombre de collègues d'utiliser ça, que ça permet aussi peut-être aussi un circuit économique local, parce que malgré tout, il y a des revendeurs, il y a des installations, il y a des gens qui viennent vérifier les réseaux, installer des choses. C'est un autre circuit économique de niveau autre, hein. Ça se discute. Maintenant, je conseille fortement aux collègues de ne pas se lancer dans du à peu près du pas très cher. Et voilà, hein, je suis dans le luxe aussi, mais...
Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le circuit indien, effectivement. Ils ont leur propre technologie, ils ont leurs ingénieurs, etc. Et je dirais, ce qui se fait dans le monde de l'éducation se fait aussi dans le monde de la santé. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont pris leur autonomie par rapport aux grands laboratoires, et de façon à pouvoir avoir des médicaments aussi disponibles, et qui sont autrement extrêmement coûteux. Et là, c'est aussi un autre... très très grand scandale, hein, au niveau de la santé. Alors maintenant, pour ce qui est du marché, là encore, quel prix est-on prêt à payer ? Je veux dire, au niveau de la santé, par exemple, on peut toujours commander des produits hors label, mais qui va garantir la... Voilà. Et on est aussi dans une culture où on va être là, plainte au tribunal, si jamais, voilà, principe de précaution, que vaut ce médicament, que vaut ceci, que vaut cela, etc. Et du coup, on exige des garanties partout. Donc là, on a énormément de garanties. Bon, après, il y a d'autres problèmes, les droits d'auteur, les droits, etc. Mais on ne peut pas dire je vais être payé en tant qu'auteur et je veux pas payer le prix. Enfin, voilà. Je pense que c'est extrêmement complexe. Je n'ai pas du tout de réponse. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas, etc. C'est vrai que je suis offusquée autant que vous par certaines inégalités, mais il y a un problème. Ceci dit, quand je suis ici, effectivement, je vais comparer les prix et je ne vais pas prendre n'importe quel produit. Enfin, voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas en prendre un produit qui va tomber en panne au bout de... Voilà, donc je ne vais pas prendre le bas de gamme. Hein, parce que là, c'est se moquer du monde. Je ne sais plus quel intervenant disait oui on peut trouver un appareil mais si on ne peut plus écouter le DVD ça ne sert à rien. Voilà, donc il y a des appareils, on peut les avoir pas chers mais ils sont obsolètes, c'est terminé et ça va très vite la technique, hein, ça va très vite. Si on regarde ne serait-ce qu'ici dernière version Word ils ne l'ont pas, donc ça, il faut adapter etc, ça va très très vite.
Oui, la question que je me posais, c'était qui avait inventé le tableau interactif ? Parce que finalement, on voit qu'entre le tableau interactif et la tablette, on a vraiment la reproduction du... Alors, vous l'avez très bien montré, là, il y a une continuité et puis des ouvertures de possibilités, mais il y a quand même une continuité de dispositifs, classes, que je trouve extrêmement traditionnelles, par le fait de créer un tableau plutôt que de créer peut-être des tablettes. Enfin, il y a les tablettes qui peuvent arriver après, mais qui ne fonctionnent pas sans tableau. Et peut-être, en fait, on est ramené là, et ça a été dit plusieurs fois, on est ramené là à des formes peut-être extrêmement magistrales, parce qu'on se focalise sur le tableau, et que peut-être dans une pédagogie une pédagogie de construction des savoirs, les concepteurs de ces machines auraient plutôt conçu des tablettes ou plutôt conçu de quoi faire des affichages en classe, des affichages et non pas un support. Enfin, non, ça me pose question du point de vue de pourquoi. Alors, comme vous venez de le dire, le tableau fait que l'enseignant se retrouve à nouveau devant le tableau, que les élèves n'approchent pas du tableau, chose qu'on croyait. Enfin, qu'on a essayé, je dis « on », UFM, École Normale, ont essayé un peu de modifier. Et là, l'outil vient perpétuer des pratiques.
Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le modèle que l'on a, c'est le modèle, ce modèle républicain dont on a encore parlé pendant ce fameux séminaire organisé par la DGESCO sur les métamorphoses du livre. Voilà, c'est-à-dire que ce modèle-là, c'est le tableau. Tout le monde en même temps, il me disait on peut mettre 100 élèves devant, tout le monde ensemble, et l'interactivité, c'est l'élève à son ardoise, il renvoie au prof. Mais on a ce modèle-là en tête, voilà, c'est ce modèle-là. Et du coup, on a conçu un nouveau modèle technologique, mais adapté à cette conception-là de l'enseignement. Et le modèle que vous proposez, des tablettes, etc., ça suppose effectivement l'égalité de la parole entre tous, un autre rôle pour l'enseignant qui n'est plus expert, etc., qui n'est plus maître dans la parole. On en est... pas là du tout. Enfin, on voit bien, ne serait-ce que, par exemple, sur les débats que l'on a, qui parle, quelle est la valeur de ce qu'on trouve sur Wikipédia, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à lâcher non plus cette notion de c'est l'expert qui parle. Voilà, c'est lui qu'on va. Voilà. Les outils, ils pourraient.
Mais les outils ne sont vraiment pas facteurs de progrès.
Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas voilà. Non, mais on.
Celui-là, oui. C'est pas un outil créé. Non.
C'est initialement, c'est des outils qui sont créés au moment où il y a une explosion du logiciel PowerPoint. Où c'est concomitant et c'est lié à la présentation professionnelle en milieu professionnel, oui. Avec pour libérer l'intervenant. Oui. De sa position prisonnière au clavier pour cliquer et passer à la slide suivante et pour lui permettre de montrer au tableau visuellement, c'est une technologie d'appui d'une présentation professionnelle visant à convaincre de tel et tel élément. C'est pas un outil pour l'éducation au départ. Et d'ailleurs, la plupart des constructeurs se sont lancés dans l'élaboration de tablettes qui circulent dans la classe, sur lesquelles l'élève peut écrire en restant assis. En n'allant pas au tableau, hein, voilà. Restant ainsi. Après, ils se sont lancés dans l'histoire du boîtier de vote. Ils sentent bien qu'il y a un espace à combler et que la plupart des enseignants qui utilisent ça leur demandent, bah oui, mais mes élèves, ils font quoi avec pour l'instant? Mais ils sont dans le, enfin, comment dire en anglais, fill the gap, remplir le trou entre les deux. Mais cet outil-là, plus particulièrement, initialement, il n'était pas. Éducatif, il a été détourné, mais comme tous les outils qu'on utilise, voilà. Il n'y a rien pour nous au départ. On n'est pas un marché, je pense. On le devient qu'après coup, quand les autres marchés ont été épuisés. Mais initialement, on n'est pas. Je ne sais pas si on est un vrai marché.
Alors, je vais juste parler d'une petite innovation pour vous donner l'esprit. Là. Donc, Yves Armel-Martin, là, qui travaille pas très loin d'ici, donc dans ces innovations-là, il travaille aussi pour la santé, dans le domaine de la santé. Et ce qu'ils ont fait dernièrement, c'est créer des espaces virtuels dans lesquels on plonge les grands brûlés. Non. Les grands brûlés souffrent horriblement parce que les soins sont extrêmement douloureux. Il faut décaper la peau et donc en général on leur injecte beaucoup de morphine. Et le problème c'est qu'on peut pas donner trop de morphine parce que voilà c'est le cœur lâche. Enfin, et en même temps voilà il y a ça. Donc ils se sont rendus compte qu'en créant en plongeant le brûlé dans un espace où, bleu, où il y a de l'eau, enfin, un environnement virtuel, hein, c'est des murs, des murs, des écrans, avec cette atmosphère-là, avec musique, etc., eh bien, ils peuvent faire le soin en diminuant les doses de morphine. Donc là, c'est extrêmement positif. Donc, je rêve toujours dans mon rêve de Borges, et j'imagine des écoles où on peut changer des environnements de l'espace, puisque vous parliez de l'espace tout à l'heure, et dire tel élève, il n'est pas bien là. On voit ces élèves qui bougent tout le temps, qui remuent, etc. Comment je vais pouvoir faire bouger mon espace quelque part pour trouver un endroit où je sois bien. Enfin, on est très loin, effectivement, de ça. Mais techniquement, c'est possible. Hein. Voilà. Mais on ne le conçoit pas encore. Voilà. Dans la classe.
C'est un peu anecdotique au niveau scientifique, mais enfin, ça me semble quand même important. J'ai peur de la disparition de la troisième dimension. J'ai des souvenirs extraordinaires de volume que les enseignants manipulaient devant moi, des cubes, de l'eau qui coule, etc. Enfin, et c'est vrai que j'ai assisté à une, c'était pas en classe, hein, c'était à un salon d'éducation en Belgique, à une démonstration du tableau blanc interactif, et j'étais effrayée. Le monsieur, il nous montrait un orchestre, et alors il touchait les violons, entendait un petit bruit de violon, enfin puis je me dis mais c'est affreux, vraiment, enfin le son de chaque instrument, enfin je trouvais ça. Terrifiant. En même temps, je me dis, bon, quel est l'enseignant qui a apporté réellement un violon en classe, etc. Mais oui, ça ouvre et ça ferme plein de portes en même temps. Et j'ai très peur au niveau de la sensorialité. Enfin, c'est vrai qu'on invente maintenant des cours de psychomotricité, mais les enfants montent plus aux arts. Enfin, je ne veux pas trop caricaturer, mais il y a quelque chose de ça.
Tu me fais penser à ce roman de Huysmans qui s'appelle À rebours.
Ah oui.
Et dans lequel le personnage principal veut aller à Londres et en fait
oui.
Il va à la gare du Nord et et il y a un pub qui est installé en face de la gare et il a acheté un guide de Londres et il s'enferme, il boit une bière ou deux dans le bar en lisant le guide de Londres et au bout de 2 heures il se dit mais pourquoi aller à Londres, quoi, c'est, on est très très bien ici. Et je trouve que oui, c'est tout à fait vrai, une fois qu'on aura dirigé un orchestre, ce qui n'arrive, enfin moi ça n'arrivera jamais de diriger un orchestre en vrai, mais si je peux le faire sur internet, c'est tellement mieux, quoi.
Les questions que tu poses, elles sont très pertinentes dans un autre contexte. En ce moment, donc, on développe beaucoup la question de l'histoire des arts. Et dans l'enjeu de l'histoire des arts, il y a un thème qui est art du spectacle vivant. Donc c'est extrêmement intéressant de dire ça à tout le monde. Alors on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire pousser les partenariats culturels, emmener les élèves au théâtre, etc. Sauf que c'est pas toujours possible. Et que donc il y a un développement de nombreux outils qui vise à présenter, alors le CNDP avec quelqu'un comme Jean-Claude Lalias, il fait un boulot extraordinaire sur le sujet de mise à disposition de ressources, de choses en ligne qui sont incroyables, de DVD, je crois que c'est Lyon d'ailleurs qui a sorti un DVD sur les arts de la marionnette et du théâtre d'objets, enfin il y a des trucs fabuleux. Et donc je le vois à une conférence à Paris où il vient expliquer quelles vont être les prochaines publications. Il dit « Oh là là, mais je suis furieux, on m'a obligé à produire un produit ». Alors quand obliger Jean-Claude Lalias à faire quelque chose, c'est déjà une étape, hein. C'est comme les bottes de neige, faut se renseigner. Alors on va regarder et il nous explique « Voilà, on m'a forcé à faire un projet qui s'appelle Antigone en ligne, déjà le titre est débile ». Alors je lui dis « Pourquoi tu vas faire plusieurs versions d'Antigone ? Qu'est-ce que tu vas ?» Et alors en fait, il s'agit de prendre une quinzaine de pièces du patrimoine théâtral et pour chacune de ces pièces, de proposer 4 ou 5 mises en scène d'extraits clés qui puissent être sur l'écran, comparés, visualisés, avec une espèce de karaoké du texte qui passe en même temps et qui montre, par exemple, la durée que met tel metteur en scène pour dire telle réplique ou pour mettre ça en place ou pour des choses. On s'est tous regardés en disant « Mais t'es fou, c'est fabuleux !» C'est incroyable cet outil, quand est-ce que ça sort? On était tous hystériques. Il dit, mais vous comprenez pas, le choix des mises en scène, le choix des pièces, le fait qu'on formalise ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les enseignants, au théâtre, ils vont plus les emmener, puisqu'ils auront cet outil-là pour en faire 3 ou 4 d'un coup, que ce sera réglé une fois pour toutes, et qu'on n'aura plus cette expérience sensorielle que le théâtre provoque, qui n'est pas du tout la même que sur l'écran. Et Françoise Gomez, qui n'y a hyper, a une excellente réflexion, elle a dit « Mais de toute façon, toutes ces technologies ne sont utiles que s'il y a médiation humaine. Et ça remplacera rien. C'est la médiation humaine. C'est elles vont nous servir à faire une introduction à proposer quelque chose. Mais c'est exactement le cœur de son propos. C'est-à-dire, lui, il en était malade de rendre le théâtre comme ça, 4 extraits, on compare, on fait... Voilà, il se dit, voilà, maintenant, en plus, ça va être stéréotypé, tout le monde va faire ça, même sur les notes, on va devenir modélisant, alors que c'est super bien, hein. Moi, j'ai bien l'intention de m'en servir, si c'est modélisant. Mais voilà, et elle disait, je pense qu'elle a raison, il y a encore plus au cœur de ces technologies à mettre en place la médiation humaine, c'est-à-dire voir ces 4 mises en scène, voir ce texte qui se déroule, les élèves ne peuvent pas l'utiliser en autonomie. Ça n'est pas vrai. Quel que soit leur âge, même au lycée, ils n'en tireront rien s'il n'y a pas la médiation du professeur pour dire regardez ce qu'il y a là, regardez qui fait quoi, mettez d'abord vous en scène, comparez avec ce qui a été fait, vivez de l'intérieur, etc. Un certain nombre de choses. Et donc je pense que ça n'est pas exclusif. Et peut-être que justement le monde du théâtre, qui a beaucoup anticipé ça, parce qu'il y a beaucoup maintenant de metteurs en scène comme Novarina qui disent « j'anticipe la captation de mon spectacle ». Alors Novarina, par exemple, pour l'acte inconnu à Avignon, il a travaillé en amont, puisque c'est une écriture, tu sais, de scène, en fait. Il écrit, il met d'abord ses acteurs sur scène et ensuite il compose son texte. Et donc il s'est fait suivre dès le début par un réalisateur qui a organisé la captation par Arte. Et du coup, c'est vrai que c'est une problématique qu'ils ont. On est dans l'éphémère, on est dans le jeu unique. Ça peut être une fois comme ça. Dans 10 représentations, ce ne sera pas comme ça. Mais voilà, ils sont en avance. Ils ont réfléchi déjà à ces problèmes-là. Ils disent bien, l'enseignant reste au cœur de cette médiation-là. Donc tu...
Mais on est dans la réflexion d'Anne-Marie Chartier, en fait. Hein. Et je crois que ça, c'est vraiment savoir ce qu'on perd et ce qu'on garde. Je pense que ça, c'est important. De fait, il ne faut pas se dire « Oh, j'ai ça, et donc j'oublie le reste ». Je crois que, de nouveau, il faut tisser.
Et ce qui est très intéressant aussi dans vos interventions, c'est que, en fait, vous liez à une nouvelle formation qu'on va faire en janvier sur l'enseignement de l'histoire des arts, qui pose effectivement juste ce problème-là. Effectivement, oui. C'est un réel problème. Mm-hmm. Donc, tout est à portée de main. Donc on a comment aller au théâtre, comment aller voir le tableau, etc.
Oui, parce qu'en même temps, on mesure l'effet apéritif de telles représentations. Et ça peut donner envie justement à quelqu'un qui ne va jamais au théâtre de dire, allez, cette fois-ci, c'est tellement beau, là, je vais y aller vraiment. Enfin,
c'est vraiment intéressant et vraiment compliqué. Il n'y a pas de réponse. C'est sûr qu'actuellement, on peut avoir pratiquement tout le musée d'Orsay sur, sur écran. Et en même temps, on sait bien que ce n'est pas les dimensions, ce n'est pas le rapport à la matière, ce n'est pas non plus tout à fait les couleurs, ça n'a pas grand-chose à voir. Ça, on le sait. En même temps, ces questions se sont posées, se posent depuis très longtemps, depuis qu'on a inventé l'illustration en couleur, quoi. Depuis qu'on peut avoir en carte postale tous les musées, tous les tableaux du monde, est-ce qu'une carte postale qui représente la Joconde remplace la Joconde? Ou les Noces de Cana, on sait bien que c'est pas du tout pareil. Et en même temps, c'est quand même mieux d'avoir vu une carte postale qui représente les Noces de Cana que de n'avoir rien vu tout. Bon, et avec le... Moi, je me souviens d'Ami Mélomane qui prétendait qu'il n'allait jamais au concert. Parce que c'était beaucoup mieux en disque. Et ça, c'est aussi une vraie question. Parce qu'il y a des mélomanes, moi je ne suis pas du tout de ce côté-là, mais je pense qu'il y a des mélomanes qui pensent que le rapport à la salle, le rapport à l'instrument, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, est incontournable. Et puis il y a Glenn Gould qui ne se produit jamais en public, qui fait des enregistrements électroniques hyper sophistiqués, qui sont la perfection même, et qui n'a pas besoin du public. Et du coup, si l'artiste n'a pas besoin du public, on peut imaginer qu'il y ait des publics qui n'aient pas besoin de l'artiste non plus. En tout cas, qui n'aient pas besoin du spectacle vivant et pour qui va être absolument comblé par un CD parfaitement enregistré dans des conditions techniques impeccables et où il n'y a pas de chaises qui craquent, de gens qui éternuent, de partitions qui tournent, de choses comme ça. Donc...
Et si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, effectivement, les CD nous ont habitués à une telle qualité technique au niveau musical, et on a des, comme tu dis, Glenn Gould par exemple, quand on a écouté ça de Glenn Gould, aller au concert pour écouter Pierre ou Paul, c'est difficile. Réellement, et pourtant, s'il n'y a pas tous ces nouveaux pianistes que l'on va écouter, effectivement... la musique va peut-être s'arrêter. Enfin, là, je pense à une nouvelle de Kafka, Joséphine, la cantatrice. C'est une nouvelle extraordinaire. C'est une petite souris qui est cantatrice. Elle dit qu'elle est cantatrice. Et le peuple souris se dit, mais c'est un couinement. Et elle dit, non, je chante. Et quelle est la différence entre le chant et le couinement? Elle dit, Kafka dit, si on n'arrive pas à faire la différence entre le chant et le couinement, on va perdre ça. Que va-t-il se passer lorsqu'il n'y aura plus Joséphine, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a cette question très délicate, c'est-à-dire d'aller au concert en sachant qu'on n'aura pas la perfection de Glenn Gould, mais on aura une autre émotion, comme on n'aura pas, lorsqu'on va aller voir toutes les expos de peinture, toutes les performances de lecture poétique, etc., on n'aura pas cette qualité-là des grands...
Moi, j'avoue que faire la queue sous la pluie pendant 4 heures pour aller voir Manet... Je préfère acheter un très beau bouquin bien commenté. Enfin voilà, c'est parce que j'ai déjà vu quelques Manet et que ça me suffit, que j'ai pas besoin de voir tout, enfin tout, d'avoir une rétrospective immense au prix d'une angine.
Voilà. Alors moi je suis pas allée voir Manet, mais je suis quand même allée au Grand Palais pour voir l'exposition 1500 et je suis sortie mais béate, voilà, vraiment dans une très grande joie. Et ça m'a rendue profondément heureuse d'avoir un moment de très grand bonheur de voir cette expo. Et je trouve que c'est bien... Enfin, j'aime aller au concert, écouter des poètes, même si c'est pas Glenn Gould, j'aime écouter de la musique, de voir des expos, de peinture, de faire toutes ces choses-là. Alors bon, tu me diras, au Grand Palais, c'était pas le poète du coin, enfin c'est pas le peintre du coin, mais je vais aussi voir le peintre du coin. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, cette histoire-là.
Je peux juste dire que les prochaines manifestations de l'équipe, c'est justement une semaine sur l'histoire des arts en janvier, et qu'on organise, alors vous pouvez faire circuler l'information, venir... les informations sont sur le site et qu'on organise donc au mois de mai un colloque international de 3 jours sur l'enseignement de la littérature et l'enseignement de l'histoire. Alors, l'enseignement de la littérature, évidemment, est moins présent en primaire, hein, même, malgré tout, même s'il y a toute sa place. Enseignement de l'histoire, enseignement de la littérature, regard croisé, ça s'appelle, et c'est une tentative d'interroger les didactiques et les épistémologies des deux disciplines dans le contexte de l'enseignement. Voilà.